Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est indéniablement un succès depuis son apparition en 2008 dans la loi de modernisation de l'économie. Le régime de l'auto-entrepreneuriat a séduit plusieurs centaines de milliers de personnes. Fin 2016, ils étaient 1 119 000 à être inscrits. Il faut dire que la démarche est simplissime. Peu de formalités, quelques clics sur un site dédié et vous voilà dans la peau d'un petit chef d'entreprise avec votre personne comme unique employé, ce qui facilite sans doute la cohabitation. Mais derrière cette réussite quantitative se cache un tableau beaucoup moins engageant sur le plan qualitatif. Si l'auto-entrepreneuriat permet à certains de compléter leur fin de mois, rares sont ceux qui réussissent à en vivre. Cette forme de travail n'est souvent qu'un pis-aller pour une population qui ne parvient pas à accéder autrement au marché de l'emploi. Elle masque aussi une forme de salariat qui ne dit pas son nom lorsque des donneurs d'ordre imposent ce statut en échange d'un travail. Le fameux débat sur l'ubérisation de la société en est une des illustrations. Alors, les auto-entrepreneurs sont-ils les nouveaux prolétaires ? Eh bien, nous posons la question ce soir à Cyril Darrigade. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs qui compte combien d'adhérents ?
80 000 adhérents.
Vous êtes vous-même, non pas auto-entrepreneur, mais ancien auto-entrepreneur.
Exactement, tout à fait. Passé donc en SARL depuis 3 ans.
Juste d'un mot, vous avez commencé dans quelle activité comme auto-entrepreneur ?
Communication.
Communication, voilà, ça fait partie des thèmes qu'on peut choisir quand on cherche à s'inscrire. Pour discuter avec vous, Sarah Abdelnour, bonsoir.
Bonsoir.
Sociologue, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine. Vous avez fait votre thèse sur le régime de l'auto-entrepreneur et vous en avez tiré un livre. Moi, petite entreprise, les auto-entrepreneurs de l'utopie à la réalité, c'est aux éditions PUF, ça vient tout juste de sortir. Et puis notre troisième invité, Hassen Belmessous, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur indépendant, spécialiste des questions urbaines, vous avez publié dans le dernier numéro du Monde Diplomatique un article tiré d'une recherche-action que vous menez depuis plusieurs mois. Article intitulé « En banlieue, auto-entrepreneur, faute de mieux ». J'en vois également à votre précédent ouvrage chez Post Éditions, vous en avez sorti plusieurs. « Le grand Paris du séparatisme social, Paris, P-A-R-I-S
hein, ». Voilà, oui, c'est la ville de Paris.
La ville de Paris. Alors pour commencer cette discussion, et pour celles et ceux qui peut-être ignoreraient tout du statut d'auto-entrepreneur, du statut, faut-il parler du régime, Cyril Darrigade, qu'est-ce que c'est qu'un auto-entrepreneur en quelques mots ?
Alors, c'est d'abord une personne qui décide de s'établir à son compte, sans contrainte. Elle a le choix entre, on va dire, deux possibilités, c'est-à-dire soit partir sur une activité de service, elle sera limitée à 82 000 euros, 82 200 euros par an, soit sur des activités commerciales et artisanales, où là, elle sera limitée à un plafond qui est aux environs de 33 000 euros. Donc, c'est en fait très facile, il suffit de s'inscrire en ligne avec une photocopie de sa carte d'identité, le secteur d'activité dans lequel on veut exercer et on reçoit un numéro SIRET, c'est le sésame, on peut se lancer.
Je parle d'auto-entrepreneur, est-ce que je ne devrais pas davantage dire, pour être plus précis, micro-entrepreneur?
Absolument.
Aujourd'hui, Sarah Abdelnour.
Oui, alors effectivement, en termes purement législatifs, l'intitulé a changé, est revenu à la micro-entreprise, qui par ailleurs existait déjà avant. L'auto-entrepreneur a été marketé et a du coup un impact bien supérieur au dispositif précédent, mais la micro-entreprise existait déjà. Mais j'aimerais bien revenir sur la définition, parce que je ne l'aurais sans doute pas tourné comme ça. Je ne serais pas partie d'une personne qui décide sans contrainte de se mettre à son compte. Je pense que c'est surtout un dispositif d'action publique, le régime de l'auto-entrepreneur, qui vise à inciter au travail indépendant, mais finalement, quand on regarde véritablement qui sont les auto-entrepreneurs, on trouve peu de personnes qui ont vraiment décidé sans contrainte de le faire.
C'est-à-dire que... On va dire qu'en théorie, il n'y a pas de contrainte. Dans la pratique, c'est peut-être un petit peu différent. Mais ça va être un des objets justement de la discussion de ce soir. Hassen Belmessous, dans auto-entrepreneur, il y a l'idée d'entreprendre. Et dans l'article que vous avez signé pour Le Monde Diplo, il ressort notamment que justement cette volonté d'entreprendre, c'est quelque chose qui est très fort dans les quartiers populaires.
Oui, faute de mieux. C'est en cela que le titre est finalement assez pertinent. Faute de mieux au sens où ces personnes finalement qui ont identifié un certain nombre d'obstacles, dont celui de l'accès au travail, voient dans l'auto-entrepreneuriat le moyen finalement d'accéder à un champ d'activité. Mais on peut se poser la question d'ailleurs, ça revient souvent dans les entretiens que j'ai menés à l'occasion de cette recherche que vous évoquez. Parce que eux se posent la question, est-ce que l'auto-entrepreneuriat finalement égalise les chances ou pas ?
Mais c'est pas parce que, alors vous dites faute de mieux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi chez certains un esprit peut-être d'entreprise qui pourrait être différent que dans d'autres zones géographiques ? On parle souvent de l'extrême dynamisme, par exemple de la banlieue, des quartiers populaires. Ça, vous diriez que c'est pas tout
non,
à fait vrai ?
Non. Je pense que c'est une. Je ne crois pas qu'on est face à des nouveaux self-made man. Vous savez, ces gens qui se font de même. Non, je crois que c'est davantage, et c'est ce qui revient encore une fois dans les analyses des entretiens, des individus qui voient finalement dans le capitalisme, pour dire les choses comme elles sont, finalement le moyen le moins inégalitaire d'accès au marché du travail.
Cyril Darrigade ?
Oui, bon, moi je ne pense pas que ce soit un dispositif public. Je pense que travailler, c'est... D'abord, bon, remplir un certain nombre de besoins, mais ça peut être aussi, pour ce qui concerne le régime, une liberté. La liberté de choisir la manière dont on veut travailler. Ça a été aussi ce qui a porté ce régime. C'est-à-dire, j'ai actuellement un CDI ou un CDD, j'ai une compétence particulière, j'ai une passion particulière, je peux effectivement, à travers le régime, dépasser, si je le souhaite, déjà mon propre emploi. La deuxième, c'est pour tester une idée. Tester une idée. Pourquoi ? Parce que c'est sécurisé, on est en franchise de TVA, donc ça c'est très important, et que finalement les contraintes sont minimes. Bien sûr, il existe des limites à tout ça, mais finalement, quand on veut créer une structure de droit commun, que ce soit en SARL, en SAS ou dans d'autres formes, c'est beaucoup plus contraignant, il faut avoir un apport de capital, il faut... Donc moi, je crois que, grosso modo, l'auto-entreprise, c'est pas le miroir aux alouettes, c'est plutôt pour moi le miroir de la France qui s'essaye à une idée, qui essaie de travailler.
Ces cas que Cyril Darrigade évoque, Sarah Abdelnour, ils ne sont pas totalement absents de votre étude. C'est-à-dire, vous faites une typologie aussi des auto-entrepreneurs, en disant d'ailleurs que finalement, il y a peut-être deux mondes dans l'auto-entrepreneuriat et qu'on assiste vraiment à une assez forte division entre ceux qui, effectivement, peut-être font un choix qui est totalement assumé, soit pour compléter les revenus, soit, comme vous le disiez, Cyril Darrigade, pour tester des choses, et puis ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'aller dedans, soit parce que ça leur permet d'entrer sur le marché du travail, soit parce qu'on leur impose ce régime.
Alors effectivement, il y a des trajectoires très différentes. Moi, j'ai voulu mettre l'accent, et c'est vrai que je l'ai fait dès ma première intervention, parce que je mets l'accent sur le caractère parfois contraint et la dimension de salariat déguisé, puisque c'est vrai que je trouve qu'on insiste beaucoup, à force de sondages, à coup de sondages, sur l'envie que les Français auraient d'entreprendre. Et c'est vrai que quand on regarde qui sont réellement les auto-entrepreneurs, on trouve quand même beaucoup, notamment de jeunes, qui cherchent surtout à accéder à un premier travail, à accéder à des revenus, et qui vont proposer leurs services. Par exemple, une jeune architecte que j'ai rencontrée qui propose ses services sur le site de l'Ordre des architectes et qui dit « je cherche CDI, CDD, voire auto-entrepreneur », et puis on lui propose de commencer à travailler en auto-entrepreneur. Donc,
vous dites même que son père l'a encouragé à faire cette démarche en disant...
Réalisme économique, peut-être que ce sera plus facile d'accéder au marché du travail de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'après, évidemment, il y a une très grande hétérogénéité des trajectoires. C'est difficile de faire un portrait type, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, parce que je pense que c'est la face la moins visible. Mais c'est vrai que par ailleurs, dans cette question des usages très différents, on a des personnes qui sont relativement stables, des retraités qui vont cumuler leurs revenus, on a des personnes qui entrent sur le marché du travail par cette période que certains de mes enquêtés ont eux-mêmes appelé du bizutage. Et ce qui est intéressant quand même de voir, c'est de s'interroger sur la dimension quand même de redoublement des inégalités de ce dispositif. C'est-à-dire ceux qui sont déjà stables, des fonctionnaires, des retraités, vont pouvoir cumuler ou qui sont très qualifiés sur le marché du travail, on peut cumuler en faisant un petit peu de conseils à côté, d'autres missions. Et puis ceux qui sont quand même déjà les plus fragilisés par le chômage, par des qualifications qui sont parfois peu reconnues sur le marché du travail, vont plutôt accumuler des petits bouts d'emploi, des petits bouts de travail indépendant qui assurent difficilement une situation stable, on le voit dans l'accès au logement par exemple.
dans ce travail que vous avez réalisé sur le terrain à Seine-Belle-Messousse et dans l'article qui est publié dans le Monde Diplo, je ne sais pas si on l'a dit au début, hein, mais c'est à Vaux-en-Velin,
oui, dans le Rhône,
à proximité de Lyon. Est-ce que vous avez fait aussi ce constat que fait Sarah Abdelnour, c'est-à-dire que choisir aussi ces statuts faute de mieux, ça contribue finalement peut-être à figer ceux qui le prennent dans une inégalité, même si, comme vous le disiez dans votre précédente intervention, c'est peut-être la moins mauvaise des inégalités.
Oui, je pense qu'il faut quand même débusquer cette illusion capitaliste selon laquelle on serait dans une sorte de mouvement comme ça lancé de tous entrepreneurs qui fait écho à tous propriétaires aussi. Hein. Moi, je pense qu'ils sont d'abord par défaut et ils le disent, ils l'expriment. Quand ils se prennent des murs, comme ils disent, en raison de discriminations de toutes sortes, territoriales, à l'adresse, à la couleur de peau, etc., alors qu'ils sont souvent très très diplômés, eh bien finalement, le constat qu'ils font, c'est est-ce que le capitalisme, c'est pas le moyen le moins injuste. Et moi, je pense que c'est ça, finalement, l'échec de notre social-démocratie. Hein, c'est que cette dimension égalitaire dont on nous rebat les oreilles et dont on l'entend actuellement à l'occasion de la campagne, ne révèle qu'un leurre. Alors après, attention, ce ne sont pas tous des entrepreneurs dans l'âme, ce sont des individus qui veulent se faire une place dans la société.
À propos de la question des discriminations, il y avait une actualité hier, puisque le ministère du Travail a fait connaître une grande opération de testing qui a été menée auprès d'un certain nombre d'entreprises en 2016, et études de laquelle il ressortait qu'il y avait deux entreprises qui étaient particulièrement épinglées, Accor et Courtepaille, qui sélectionnaient les personnes qu'elles embauchaient, en fonction notamment du nom et de l'origine géographique. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement l'auto-entrepreneuriat, en tout cas, ça a au moins ce mérite que de permettre à des jeunes qui seraient peut-être discriminés dans une approche un peu classique de recherche d'emploi, Cyril Darrigade, de leur permettre de mettre quand même un pied dans le monde du travail?
Oui, je crois effectivement, mais au-delà de ça, on a ce régime relativement jeune, donc on commence à avoir un recul. Pas tout à fait 10 ans pour l'instant. Il a permis de sortir 400 000 personnes de l'économie souterraine. Alors certes, on va dire que c'est un chiffre qui peut être relativement faible quand on regarde la représentation que peut avoir l'économie souterraine, mais enfin c'est déjà ça. Après, sur la question des inégalités, des illusions capitalistes, je place cette question de la liberté d'entreprendre comme celle, comme les autres en fait. Je dis pas que c'est la bonne solution. Ce qu'on cherche en fait profondément, c'est pas de dire tout le monde va être auto-entrepreneur, tout le monde va être chef d'entreprise, c'est pas là la question. En fait, le nœud du problème, c'est comment on arrive décemment, dans de bonnes conditions, à donner la capacité à chacun de travailler et donc de s'épanouir personnellement aussi.
Mais alors justement, est-ce que ce régime permet d'offrir ça, c'est-à-dire de vivre décemment aujourd'hui, sachant que d'abord les revenus sont plafonnés, 32 000 euros pour les activités de service, 80 000 euros pour les activités commerciales, je parle de sommes annuelles, hein, bien entendu. Est-ce que beaucoup l'atteignent d'abord ce plafond?
Alors il y a 600 000 auto-entrepreneurs qui ont effectivement un chiffre d'affaires positif. Après, la réalité, elle est quand même là. Tout le monde ne vit pas de cette activité. Premièrement, parce que si l'objet premier, c'est de compléter les revenus, effectivement, la question ne se pose pas, et ils sont nombreux. Si elle est de se dire, je suis en phase de test et mon objectif, c'est d'aller vers le régime de droit commun, il y a aujourd'hui entre 15 et 20%, selon les années, hein, on a fait une moyenne globale, d'auto-entrepreneurs qui arrivent à basculer dans ce régime de droit commun.
On est d'accord.
Donc ça veut
dire
qu'il y a une capacité d'aller vers l'entreprise.
On est d'accord que quand vous dites 600 000 auto-entrepreneurs ont un chiffre d'affaires positif, c'est-à-dire à plus de la moitié finalement des auto-entrepreneurs actuels, chiffre d'affaires positif, ça ne veut pas spécialement dire chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir vivre décemment.
Absolument, absolument.
Sarah Abdelnour, sur cette question justement des revenus qui sont fournis par l'auto-entrepreneuriat, quand on est seulement auto-entrepreneur, c'est-à-dire que ça n'est pas un complément de revenus, est-ce qu'on peut en vivre? Est-ce que beaucoup en vivent?
Alors, Assez difficilement, hein, le chiffre de l'INSEE qui était paru dès 2012 indiquait que 90% des auto-entrepreneurs dégageaient de cette activité indépendante moins que le SMIC. Alors évidemment, bon, c'était un chiffre un petit peu coup de poing pour indiquer quand même la faiblesse économique de ces situations. Il faut le mettre en regard de la situation en parallèle, c'est-à-dire s'il y a une autre activité. Sauf que, effectivement, ça a beaucoup été présenté comme un régime de cumul des revenus. Pour autant, 60% des auto-entrepreneurs n'ont pas d'autres revenus, n'ont pas d'autres activités, n'ont pas une activité principale. Ce qui veut dire quand même, et en l'occurrence, ceux qui n'ont pas d'activité principale sont souvent ceux qui sont dans les situations les plus fragiles. À nouveau, je reviens un peu sur ce constat d'augmentation des inégalités. Donc, on a quand même des situations très fragiles, notamment pour ceux qui n'ont que ça.
Après, dans votre livre, vous n'écartez pas totalement l'hypothèse selon laquelle, quand on est auto-entrepreneur, on ne déclare peut-être pas l'entièreté, on va dire, de ses revenus. Et donc, ce qui ressort des statistiques n'est peut-être pas l'exacte transposition de ce que l'on gagne vraiment.
Oui, alors c'est pour ça, d'où l'intérêt aussi.
Mais ça, évidemment, c'est dur à évaluer, hein, bien sûr.
De l'enquête qualitative, c'est d'aller regarder aussi un petit peu plus dans le détail et derrière les chiffres. Il m'a pas semblé quand même qu'il y avait un gros décalage entre ce qui était déclaré et ce qui était perçu, notamment parce que certains ont bien en tête que ce qu'ils déclarent, ça leur permet aussi, par exemple, de cotiser à la retraite et qu'ils n'ont pas non plus intérêt à rien déclarer. Par ailleurs, ça, c'est une question plus générale sur le travail indépendant. Je ne sais pas s'ils sont très spécifiques à cet égard.
Oui, c'est pas forcément parce qu'on est auto-entrepreneur qu'on masquerait plus de revenus que si on dépend d'un autre régime. Hassen Belmessous, ces auto-entrepreneurs que vous avez rencontrés, ils en vivent correctement de leur travail, et ça suppose quoi? Ça suppose d'y passer de nombreuses heures, ou bien est-ce que c'est des... bien est-ce qu'on peut être aux 35 heures finalement et être...
Non. Ils n'en vivent pas. Ils en souffrent parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des... Ils portent des trajectoires qui sont décalées par rapport à leur... du moins à ceux de leur génération, hein. Je pense à quelqu'un qui se retrouve à l'APEC, l'agence des cadres, dans le... à Pau, et qui raconte que avant d'être auto-entrepreneur, il était le seul à avoir envoyé des CV parmi les cadres, hein, et qui apportait un nom à consonance étrangère et qui n'avait pas de réponse. Donc, pour revenir à la question, ce qui est assez cynique dans cette situation-là, c'est que finalement, l'auto-entrepreneuriat en banlieue accentue, j'allais dire, ce phénomène de minorisation et de communautarisme. C'est-à-dire que moi, je pense à quelqu'un qui s'est retrouvé à faire de la communication, faire des flyers, des designs, voyez, ce genre de communication pour les sandwicheries, kebabs, etc. Et qui a vu une niche, finalement, qui lui a rapporté de l'argent, mais qui, très rapidement, s'est rendu compte qu'il était totalement piégé. C'est-à-dire qu'il était à la fois auto-entrepreneur arabo-musulman, pour une communauté, mais lui, quand il a fait ses études, il ne se destinait surtout pas, finalement, à se retrouver encagé, j'allais dire, dans cette position-là. Et je trouve que là, il y a quelque chose d'assez cynique de notre République à l'égard de ces personnes.
Ah, justement, c'est une question que je voulais vous poser, Sarah Abdelnour et Cyril Darrigade. Est-ce qu'on a un recul suffisant aujourd'hui, même si c'est un régime, on le disait, qui est encore jeune, moins de 10 ans, pour savoir si c'est avant tout un tremplin vers une autre forme de travail, qui serait peut-être une forme de travail plus pérenne, ou bien si, comme le constate sur le terrain Hassen Belmessous, c'est quelque chose qui finalement vous enferme, et que quand on est auto-entrepreneur, c'est pas forcément parce qu'on a l'ambition de le rester à vie. Sarah Abdelnour.
Alors, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de recul sur les trajectoires. Quand c'est utilisé comme porte d'entrée vers le salariat, comme période d'essai, période de bizutage, bon, il est possible que ça débouche sur du salariat. D'ailleurs, l'architecte que j'avais rencontré avait quand même fini par obtenir sur une des deux agences qu'elle passe en CDD. Donc ça peut amener vers là. Je pense qu'il y a pas mal de situations où il n'y a pas non plus comme horizon de créer son entreprise et de changer de statut. Et d'ailleurs, il y en a quand même relativement peu qui le font.
On a quelqu'un qui l'a fait, puisque vous, c'est votre cas, Cyril Darrigade. Vous avez commencé comme auto-entrepreneur, et puis finalement, c'est ce régime-là, c'est cette possibilité-là qui, possibilité-là qui vous a permis ensuite de passer au cran supérieur, disons ?
Oui, c'était en 2011. Effectivement, j'ai atteint rapidement, au cours de la première année, le seuil maximum. Donc, c'est posé la question de savoir ce qu'il fallait faire, soit arrêter ou continuer sous une forme différente. Et le portefeuille client était là, l'activité semblait pérenne, donc les capacités étaient rassemblées pour partir effectivement sur la SARL. Il y avait à l'époque un dispositif qui était d'ailleurs assez intéressant, c'est que on pouvait importer via une expertise d'un commissaire aux comptes, en fait, entre guillemets, son fonds de commerce certifié pour faire un apport en capital social sans avoir à la porter, on va dire, en numéraire. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites, et depuis, moi, je suis très content, je prends mes responsabilités. J'étais salarié avant, et aujourd'hui, le temps que j'investis, je le plains pas.
Pardon, ça veut dire que vous aviez une clientèle précédemment. Vous n'étiez pas neuf dans le métier.
Je n'avais pas de clientèle dans ce métier-là, j'étais dans un autre secteur complètement différent.
Sarah Abdelnour.
Oui, pardon, juste un petit complément. Je suis désolée, je fais un petit peu la voix négative dans l'échange, mais c'est aussi parce que précisément, on reçoit plus volontiers sur les plateaux des gens qui ont une expérience heureuse et qui ont pu aussi monter leur boîte à partir de ce tremplin. Et c'est vrai que, bon, en tant que sociologue, on aime bien un peu porter la voix de ceux qui l'ont moins. Donc voilà, donc je vais rappeler les chiffres.
Les journalistes aussi, hein, c'est un point commun.
Aussi. Oui, nous aussi.
Mais c'est vrai que le taux de survie à 3 ans est faible. L'INSEE l'a redit. Seulement 30% après 3 ans des auto-entreprises sont encore en activité.
C'est beaucoup moins que les entreprises classiques.
C'est moins que les entreprises classiques, même si elles aussi ont du mal à survivre. Et ce que je voudrais rajouter, c'est que parfois, l'auto-entreprise tient sur les aides sociales. Et qu'une fois qu'on n'a plus l'acre, on a du mal à tenir tout seul.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Les auto-entrepreneurs sont-ils les nouveaux prolétaires? C'est la question que nous posons ce soir à Sarah Abdelnour, qui est sociologue, à Hassen Belmessous, qui est chercheur, et Cyril Darrigade, qui est le porte-parole de la Fédération des auto-entrepreneurs. Je voudrais qu'on en vienne à cette question qui ne couvre pas l'ensemble des auto-entrepreneurs, mais en tout cas certains, qui est celle du salariat déguisé. Alors, on parle beaucoup depuis des mois de la société de VTC Uber, mais je voudrais vous faire écouter un autre exemple qui, là aussi, pose cette question de savoir quel est le véritable statut de ceux qui se déclarent comme auto-entrepreneurs et quel est le lien peut-être de subordination qui peut exister à l'égard d'un autre employeur. Nous sommes l'été dernier et une start-up, un service de livraison de repas à domicile, Take It Easy, va être placé en redressement judiciaire.
Lancé sur son vélo, Aymeric Delplanque livre des repas chauds à domicile, mais il y a quelques jours, il a été stoppé net dans sa course. La start-up belge Take It Easy, qui l'emploie, a été placée en redressement judiciaire. Le jeune Lillois a appris la mauvaise nouvelle par un simple mail, comme 4000 autres livreurs en Europe. Résultat ?
Tout ce qu'on a fait au mois de juillet, ça ne servit à rien, parce qu'on ne va peut-être pas être payé. Et moi j'ai une perte de 1100 euros.
Des impayés ? Plus de travail et pas de chômage, car ces coursiers sont contraints d'adopter le statut d'auto-entrepreneur.
Ciao.
Malgré une bonne croissance, Take It Easy n'a pas réussi à clôturer sa troisième levée de fonds. Restaurateur et coursier se tourne désormais vers son principal concurrent, une société britannique qui réembauche déjà les livreurs laissés sur le carreau.
Alors là, on est face à un vrai problème, Cyril Darrigade, c'est-à-dire quand ces auto-entrepreneurs se retrouvent sans activité, même si après peut-être qu'ils vont retrouver du travail, mais la protection qui leur est proposée, elle est quoi? Elle est quasiment nulle. Et qu'est-ce que la Fédération des auto-entrepreneurs peut leur apporter justement comme aide pour essayer peut-être, je sais pas moi, soit de se retourner contre leur ancien employeur, qui n'en est pas un au regard véritablement de la loi?
Un chiffre, je disais tout à l'heure, on a effectivement sorti 400 000 personnes de l'économie souterraine, c'est un progrès. Quand j'entends effectivement ce reportage, je dirais pas le contraire, c'est édifiant. On n'est pas là pour mettre les gens dans la précarité. On est là pour leur donner une chance qu'actuellement le marché de l'emploi n'offre pas. Il y aura, et les réflexions sont en cours, effectivement, des mesures de protection à apporter. C'est-à-dire, bon, c'est ni plus ni moins, si on transpose la question, ce qui est en train de se passer sur la réflexion avec le RSI.
Hein, le régime social des indépendants.
Absolument. Le régime social des indépendants. Où est-ce qu'on doit, et avec qui on doit être protégé? Donc la question majeure qui se pose maintenant, effectivement, et qui fait partie du livre blanc qu'on vient de publier pour la présidentielle, c'est comment on protège cette population?
Parce que cette population, pour l'instant, Sarah Abdel Nour, elle n'est pas protégée. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle certaines entreprises obligent des personnes à adopter ce statut d'auto-entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus flexible et que quand il y a moins d'activité, eh ben on peut virer les personnes sans avoir à passer par une procédure classique de licenciement.
Oui, alors ces travailleurs indépendants sont relativement moins protégés, déjà parce qu'ils n'ont pas d'assurance chômage, alors qu'elles sont dans ces parcours professionnels quand même un peu instables. Elles sont moins protégées en termes d'assurance maladie. Les auto-entrepreneurs ne sont pas couverts, par exemple, la première année en cas d'accident du travail. Ils n'ont pas d'indemnité journalière, donc elles ont moins de protection. Elles ont moins de protection aussi parce qu'elles n'ont pas de salaire minimum, elles n'ont pas de congés payés, donc il n'y a pas que la protection sociale au sens strict. Et effectivement, ça bénéficie aux employeurs qui n'ont pas de frais de gestion de la main-d'œuvre, qui n'achètent pas le matériel. Uber n'a acheté aucune voiture, Tekitizé n'a acheté aucun vélo. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté de la part des entreprises d'un travail flexible, moins cher, etc. Mais je pense aussi que ce n'est pas qu'un dévoiement d'un objectif politique qui était tout autre. C'est-à-dire que les équipes autour d'Hervé Novelli quand même revendiquaient le fait de vouloir sortir aussi un petit peu du droit du travail.
Alors rappelons qu'il était Hervé Novelli, secrétaire d'État au ministre, je ne sais plus, à l'époque.
Secrétaire d'État, oui, aux petites entreprises, tourisme, etc., qui est quand même un peu le grand artisan politique de cette mesure avec d'autres. Et je pense quand même que c'est peut-être un danger de le voir juste comme un effet pervers, ce contournement. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de sortir d'un modèle social jugé trop lourd, avec un droit du travail trop contraignant, et que ce n'est pas qu'un dévoiement quand les entreprises font ça, je pense que ça correspond en partie à un objectif politique.
Cette question du dévoiement, voilà, ou en tout cas de l'objectif politique de sortir finalement du droit social classique à cette Belmessous, cette ubérisation dont on parle, puisqu'on en a fait vraiment un néologisme depuis quelques mois dans les médias, comment est-ce que cette question-là, elle est perçue dans les quartiers populaires? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, bah voilà, finalement, peut-être que ça existe, mais après tout, si c'est la seule façon de trouver du travail, et bah, de toute manière, on n'a pas le choix?
Écoutez, ce que souligne l'article pour le Monde diplomatique et ce que montre la recherche, c'est que on est quand même en présence d'un champ de ruines sociales assez désastreux, assez navrant, avec cette idée que finalement la précarité est un obstacle très difficile à franchir. Voilà, il faut dire, je crois que c'est ça. Et d'ailleurs. C'est pas un aparté, mais ce que j'observe, c'est que il y a ceux qui deviennent auto-entrepreneurs, et il y a également ceux qui tentent Sciences Po et qui voient dans Sciences Po le moyen finalement de se lancer dans l'entrepreneuriat. Sciences Po Paris, hein, vous savez, par le dispositif finalement d'accès au tour extérieur. Et je trouve que tout ça montre qu'on est dans une situation où les habitants des quartiers populaires, mais pas seulement, hein, tous ceux qui se vivent comme des relégués sociaux, se vivent finalement, ont l'impression que dans cette république d'égalité des chances, eh bien, il faut saisir les chances qu'on nous donne. Mais il y en a une qui ne fonctionne plus du tout. C'est cette idée que l'égalité fait partie du triptyque républicain.
Ce régime tel qu'il a été conçu, Cyril Darrigade, et avec les détournements, donc enfin détournements ou pas justement, qui ont pu être faits, est-ce que vous considérez qu'il pourrait être amélioré pour éviter peut-être qu'on se retrouve dans des situations de salariat masqué où on oblige des personnes, voilà, à adopter ce statut pour pouvoir après s'en défaire beaucoup plus facilement?
Oui, je le crois effectivement. Ça fait partie des propositions qu'on a déjà faites en 2012. Quand on a rencontré Sylvia Pinel, qui était alors ministre du Commerce.
Il y avait quoi dans les propositions? C'est-à-dire bénéficier de l'assurance chômage?
Il y avait effectivement cette mesure, mais au-delà de ça, c'est pas le problème. C'est nous donner à nous, organisations représentatives, comme le sont les représentations de différentes professions, la main aujourd'hui sur ces problématiques. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est simplement derrière un micro ou dans les journaux, ou à écrire, ou à produire, ou à rencontrer le législateur pour dire les choses. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas, on n'a aucune marge de manœuvre pour exprimer, pour concrétiser les difficultés que les auto-entrepreneurs rencontrent.
Il y a eu quand même un certain nombre d'évolutions législatives depuis
Il y en a eu 10. Donc on va peut-être.
Elles n'ont pas été satisfaisantes ?
On peut pas dire, c'est pas le problème, c'est pas le problème. Pourquoi le régime évolue? C'est aussi parce que l'économie bouge. Ça, c'est un constat. Pourquoi le régime évolue? Parce que bon, dans la mobilisation qu'on a menée en 2012, tout à l'heure, Sarah parlait de la volonté d'Hervé Novelli, effectivement, d'aller vers un code du travail plus qu'assoupli. Quand on a rencontré Sylvia Pinel en 2012, c'était bien pire. C'était aller vers carrément la suppression du régime de l'auto-entreprise. Alors que moi, je considère qu'aujourd'hui,
Quelle raison il y avait cette
parce qu'il y avait l'histoire de la concurrence déloyale avec les artisans et les commerçants, alors que maintenant il y a un stage qui permet effectivement de valider cette qualification. Donc on apprend à marcher en marchant, et ce régime va certainement, et j'espère en tout cas, corriger ses aspérités, parce qu'il y en a, par les travaux qui sont faits effectivement par les universitaires, par les chercheurs, et puis par le troisième livre blanc qu'on a produit, c'est-à-dire que nous aussi, on a fait un tour de France dans lequel on a fait remonter aux législateurs ce qui n'allait pas.
Cette volonté de modifier ce régime pour le sécuriser peut-être davantage, est-ce que ça, vous l'avez constaté, vous, dans vos travaux, Sarah Abdelnour? Parce que vous dites quand même, finalement, ce régime qui, au départ, était peut-être assez combattu par la gauche, puisque c'est la droite, hein, Hervé Novelli, qui l'a créé, finalement, se rend compte que, dans le quinquennat suivant, ça satisfaisait plutôt pas mal le gouvernement en place.
Alors, oui, c'est devenu ces aides à la création de petites entreprises, c'est devenu des mesures relativement consensuelles politiquement entre droite et gauche, sans doute précisé de gouvernement. Et finalement, le régime a bougé sans doute plus à cause de la mobilisation des artisans que d'une réelle résistance des socialistes au pouvoir. Sans doute, c'est vrai que les mobilisations des artisans ont été quand même assez puissantes, hein, dénoncer une concurrence déloyale de gens qui pouvaient rentrer sur le marché sans avoir, par exemple, la qualification, qui est un élément important pour les artisans, qui est vraiment le socle de l'identité des artisans. Donc on a effectivement un régime qui a bougé plus à cause de ça, mais le cadre juridique reste quand même plutôt favorable à ce travail indépendant, notamment par un aspect important qui est la présomption de travail indépendant. C'est-à-dire que toute personne qui s'inscrit comme travailleur indépendant est présumé aux yeux de la loi l'être. Ce qui va contre la présomption de salariat qui existe dans certaines professions, notamment les journalistes, où on suppose quand même que la personne est prise dans une activité organisée, collective, et qu'elle n'a pas toute autonomie et toute liberté. Et cette présomption d'indépendance est compliquée parce qu'elle suppose que ce sont aux indépendants de prouver éventuellement qu'ils ne le sont pas. Et quand on sait l'ampleur du salariat déguisé pour les auto-entrepreneurs, c'est compliqué. Et c'est ça qui explique, mais qui rend aussi assez difficile les plaintes actuelles justement d'un certain nombre de livreurs à vélo, chauffeur Uber, pour être qualifié comme salarié. Ce qui est d'ailleurs aussi le combat de l'URSSAF, de requalifier ses salariés et d'estimer que Uber profite d'une fausse indépendance.
Je vous voyais, je vous entendais réagir à Hassen Belmessous et Cyril Darrigade. Hassen Belmessous.
Oui. Mais je réagis parce que j'ai l'impression que c'est un sale message finalement qu'on donne à tous les déclassés, à tous ceux qui ont du mal à se faire une place. Alors j'entends bien le discours patronal.
Sale message, c'est-à-dire prenez-vous en main parce que nous.
Oui, voilà, cette idée que finalement, mais c'est le vecteur de l'égalité des chances tout ça. C'est-à-dire que on est dans une société concurrentielle, on est dans une société qui donne quelques atouts à tous, et par contre la société est dans l'incapacité de veiller à ce que cet humanisme égalitaire fonctionne. Et donc, eh bien, faites-vous votre place. Moi, j'entends bien ce que vous dites, hein, au sujet, finalement, de la liberté de création d'entreprise. À partir du moment où c'est une liberté qui est assumée, dès lors qu'il s'agit d'un pis-aller, moi, je trouve que les choses dysfonctionnent. Et je suis très, très surpris quand j'entends, par exemple, le candidat Macron faire l'apologie de l'auto-entrepreneuriat, très bien, mais
vous le citez dans votre article, hein, il dit pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est plus facile de trouver un client que de trouver un employeur.
Oui,
parce qu'il n'y a pas tort.
Ça démarre par l'auto-entrepreneuriat, face à la discrimination, à l'accès au logement, on va finalement leur dire achetez votre appartement, parce que finalement, ça sera une façon de contourner les discriminations, et etc., etc. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on dit dans notre société, et vers quel type de société on va? Moi, je pense que l'enjeu, c'est pas seulement créer son entreprise, c'est finalement qu'est-ce qu'on dit aux individus. Et moi, c'est ma crainte, elle est là.
Bien sûr, mais moi je suis pas venu là pour figer des représentations. Je suis pas venu là non plus pour représenter le patronat. Je n'en suis pas issu. Hein, je suis un fils d'ouvrier. Donc c'est intéressant pour vous comme données. Donc je suis pas là pour figer des représentations ni pour représenter le patronat. Je suis simplement là pour expliquer ce qu'est l'auto-entreprise. Je dis pas qu'elle est parfaite. Simplement, il faut avoir conscience aussi que notre modèle tel qu'il est aujourd'hui, il repose sur des règles qui ont plus de 70 ans. Moi, je ne suis pas pour opposer l'auto-entreprise au CDI, l'auto-entreprise au CDD. Je suis pour qu'on étudie dans des cadres qui protègent les gens qui souhaitent se lancer, les capacités qu'ils peuvent avoir, effectivement, à pouvoir travailler. Pour ce qui concerne effectivement ce que vous dites justement, que je partage sur les banlieues, l'auto-entreprise, c'est pas le truchement par lequel on a découvert tous les problèmes. Hein, je pense que, encore une fois, c'est plutôt, et il faut aller au fond de votre réflexion, l'échec d'une politique publique qui est celle des différents plans banlieues depuis 30 ans. Il est là le problème. Donc c'est pas l'auto-entreprise va pas être la baguette magique qui va résoudre à la fois les problèmes des banlieues et à la fois le problème du travail.
Alors ça, si il s'agit pas d'ailleurs ce soir de dire voilà l'auto-entrepreneuriat c'est terrible et c'est la cause de tous les problèmes.
Du tout. Non, c'est le symptôme. Les politiques publiques, elles ont pas 30 ans, elles ont plus de 40 ans même, pardon.
Le rapport Schwartz.
Je pensais à Habitat et Vie sociale en 75. Mais ce que révèle encore une fois l'auto-entrepreneuriat, c'est une sorte de démission du politique face aux dysfonctionnements sociaux, face aux fractures sociales. Donc on tergiverse, on invente des dispositifs et on se dit finalement, et c'est là où c'est la raison pour laquelle je parle de démission du politique. On donne au marché les moyens de réguler la société. Or, le marché ne régule pas la société.
Mais qu'est-ce qu'on fait alors ?
C'est peut-être
qu'est-ce qu'on propose ?
Qu'est-ce que moi je propose ? Alors, moi j'allais dire naïvement, faisons de la politique, allons dans la rue, dans les agora, c'est ce qui s'est passé, alors peut-être maladroitement, Nuit debout ou ailleurs, mais toujours est-il que si on laisse le marché réguler la société, on se prendra d'autres murs, ça c'est clair.
On voit, et c'est intéressant, à partir de ce sujet de l'auto-entrepreneuriat, à quel point c'est un sujet éminemment politique, en tout cas des questions éminemment politiques qui ressortent. Pour conclure, parce qu'on est déjà quasiment au terme de cette émission, Sarah Abdelnour, grosse surprise en lisant votre livre. J'avais quelques notions de cette idée de salariat déguisé, de boîte privée qui impose donc ce régime à certaines personnes. Mais alors, grosse découverte, ça se passe aussi dans certains services publics, c'est-à-dire on a recours à des auto-entrepreneurs, on les incite fortement à devenir auto-entrepreneurs. Alors là, pas forcément pour les mêmes raisons, mais parce que coupe budgétaire et ça revient moins cher finalement d'embaucher des gens qui sont sous ce régime que par exemple des vacataires.
Oui, alors effectivement, quand je disais que c'était un outil assez pratique pour les employeurs, ça s'applique aussi aux employeurs publics, puisque là, ils cherchent plutôt à contourner les problèmes aussi de réduction des postes dans la fonction publique. C'est-à-dire que c'est une manière de s'adapter à un contexte. Effectivement, les derniers échanges mettent bien en jeu ce contexte plus large qui permet de comprendre aussi le sens que prend ce dispositif de l'auto-entrepreneur. Et donc, effectivement, j'ai pu faire des petits terrains d'enquête, et d'ailleurs, vu passer moi-même, en étant dans le milieu universitaire, des annonces pour être rédacteur en chef d'une revue ou donner des cours en tant qu'auto-entrepreneur. Donc l'État, dans ses subdivisions, a pu recourir à ce régime. Et du coup, ça m'amène peut-être même à compléter cette idée de démission du politique. Je me demande dans quelle mesure c'est vraiment une démission du politique. Ça l'est en partie, mais j'irai peut-être même plus loin en disant que c'est aussi le politique qui organise le fait que le marché prend sa place. Des travaux de sciences politiques qui décortiquent très bien ça. Et on a un peu cette impression, notamment avec Uber. C'est-à-dire que Uber a pu se mettre en place en France suite au rapport Attali, qui avait été secondé par Emmanuel Macron d'ailleurs, en disant il faut déréguler le secteur des taxis. Donc ce ne sont pas juste des boîtes qui se mettent dans des brèches juridiques, ils sont quand même accompagnés par l'État pour prendre sa place.
Pour conclure, et là véritablement, quelqu'un qui, alors par choix, là aurait, suite à cette émission, véritablement envie de se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, c'est quoi le premier des conseils que vous donneriez, Cyril Darrigade ?
D'abord, bien étudier, avant de se lancer, bien étudier son marché, ce pourquoi on le fait et les raisons pour lesquelles on se lance. C'est-à-dire soit complémentarité du salaire, soit effectivement lancement vers une structure de droit commun. Donc, préparer ce terrain-là, savoir communiquer sur ce que l'on sait faire et prospecter. C'est les trois, on va dire, les trois conseils que je peux donner, et puis bien se faire accompagner aussi par sa banque, par son avocat, par son notaire, par les professions, on va dire, du droit et du chiffre.
Voilà, et puis il y a quelques sites d'information au sujet de ce régime qui sont assez complets. On peut aussi, avec beaucoup de profit, lire « Moi, petite entreprise » de Sarah Abdelnour, publié au PUF, lire Le Monde diplomatique, ben et oui, l'article d'Hassen Belmessous, et puis l'ensemble d'ailleurs de ce journal. On peut aussi aller sur le site, bien entendu, de la Fédération des auto-entrepreneurs. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci également à l'équipe du Grain, Philippine Lebray, Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis, avec à la prise de son ce soir Pierrick Monsigny. Demain, ce sera comme chaque vendredi, le club des idées du Grain.